Serait-il le Che Guevara de l'islam ? Je veux bien sûr parler de Ben Laden. La comparaison impose, évidemment, la plus grande prudence. Mais il faut bien admettre que dans certains milieux musulmans, et pas forcément les plus extrémistes, le chef terroriste est devenu un héros qui incarne le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte contre les infidèles. Comment en est-on arrivé là ? A-t-on fabriqué Ben Laden ou bien le chef d'Al-Qaïda ? Était-il promis à jouer ce rôle dans la lutte contre le grand Satan, les États-Unis, et plus généralement les nations occidentales, alors qu'il a été, de longues années durant, un allié des Américains lors de la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan. Certains affirmant même que Ben Laden est une créature de la CIA qui, tel le monstre créé par le docteur Frankenstein, s'est retourné contre son créateur. Depuis plusieurs semaines déjà, de nombreux auditeurs me pressent de demander à M. X de parler des événements qui secouent le monde et ont frappé l'opinion publique en ce jour dramatique du 11 septembre 2001. Mon fidèle interlocuteur a longtemps repoussé cette demande. Et puis, cette semaine, enfin, c'est lui qui m'a proposé d'aborder longuement le sujet. Il sera naturellement question de l'Afghanistan, mais aussi de pétrole et de gaz, et de toutes les négociations secrètes qui ont précédé les attentats du 11 septembre. Mais avant de diffuser ce nouvel entretien, je voudrais vous rappeler ce que disait M. X à propos de l'intervention soviétique en Afghanistan. Il soutenait que l'URSS avait été alors piégée par les États-Unis. Écoutez.
Donc soyons clairs, dans les services secrets occidentaux, car c'est bien d'eux dont il s'agit, hein. On a appris donc au printemps de 1979 que Moscou avait sérieusement penser à intervenir militairement en Afghanistan.
C'est la vérité.
Ouais, d'accord. Alors, le piège lui-même.
Bah, laissez-moi d'abord vous raconter la suite.
Non, je voudrais d'abord comprendre quel était l'intérêt de l'Ouest à pousser Moscou à la faute.
C'est limpide. Forcer les Soviétiques à intervenir en Afghanistan, ça consistait non seulement à les faire apparaître comme des agresseurs, mais c'était aussi les précipiter dans une guerre longue et coûteuse.
Un nouveau Vietnam.
Voilà. Car à l'Ouest, les meilleurs spécialistes de la question afghane savaient que le formidable rouleau compresseur de l'armée rouge serait impuissant à réprimer une rébellion éclatée, protégée par un relief montagneux difficile.
Ouais. Et armée en temps voulu par les puissances occidentales.
Et les plus riches des pays arabes. Donc à terme, ça se traduirait par un enlisement, une guerre interminable, coûteuse en hommes, en matériel, en argent, et qui ne manquerait pas de provoquer à l'intérieur même de l'URSS une grande lassitude, sinon des ferments d'opposition. Vous avez compris maintenant ? L'enjeu était considérable.
Une thèse confirmée par le propre conseiller du président Carter, Zbigniew Brzezinski, qui déclarait ceci en novembre 1997 à Vincent Jouvert du Nouvel Observateur. Selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidines a débuté courant 1981, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais la réalité, gardée secrète jusqu'à présent, est tout autre. C'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques. Brzezinski ajoute « Nous n'avons pas poussé les Russes à intervenir, mais nous avons sciemment augmenté la probabilité qu'ils le fassent. » Et lorsque le journaliste Vincent Jouvert lui demande s'il regrette cette initiative, l'ancien conseiller de Carter répond « Regrettez quoi ? Cette opération secrète était une excellente idée. Elle a eu pour effet d'attirer les Russes dans le piège afghan. Et vous voulez que je le regrette ? Le jour où les soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j'ai écrit au président Carter en substance, nous avons maintenant l'occasion de donner à l'URSS sa guerre du Vietnam. Mais deux décennies plus tard, les tours du World Trade Center s'écroulaient, frappées par des avions pilotés par des terroristes islamistes, vraisemblablement entraînés en Afghanistan. I'm not going to be able to do that.
Combien de temps nous faut-il encore pour qu'enfin l'on comprenne qu'on est tous tombés du même arbre et qu'on finira tous pareil? Combien de jours, combien de nuits, combien de fureurs, combien de bruit? Combien de femmes, combien d'hommes, hiver, printemps, été, automne, vont mordre encore la poussière, jeter des bouteilles à la mer? Combien encore d'années-lumière s'écrit dans le désert? Que dehors, on est tous fabriqués pareil, du sang, de la peau et des os, même sentiment derrière les mots.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Je ne vais pas remonter trop loin dans le temps, mais il ne faut jamais oublier l'humiliation américaine au Vietnam.
Et surtout le désir des Américains de prendre un jour leur revanche.
Oui, mais cette possibilité de prendre leur revanche, ils l'ont obtenue quand l'URSS est tombée dans le piège afghan. Mais nous en avons déjà parlé ensemble il n'y a pas si longtemps.
Oui, mais vous m'aviez dit alors que, au fond, c'était les États-Unis qui avaient contribué à faire tomber les Soviétiques dans ce piège.
C'est tout à fait exact. Alors, inutile d'y revenir. Mais ça explique très bien l'importance de l'engagement américain dans cette affaire. Car c'était une lutte à mort contre l'Empire du Mal, comme l'a appelé Ronald Reagan. Ce communisme qui avait vaincu l'armée américaine au Vietnam et qu'il fallait maintenant abattre. Et puis, vous n'ignorez pas que la défaite soviétique en Afghanistan sera un des éléments majeurs de la désagrégation de l'URSS.
Ouais. Mais quand vous parlez d'engagement américain en Afghanistan, il ne s'agissait quand même pas d'un engagement direct.
C'est vrai. Hein? L'aide aux Moudjahidines a été essentiellement matérielle. Des centaines de millions de dollars tous les ans. Mais les Américains sont allés bien au-delà. Ils ont entraîné des résistants afghans dans des camps situés au Pakistan. Et des agents de la CIA et des conseillers militaires sont intervenus directement sur le terrain.
En Afghanistan même, donc?
Bien sûr. Mais ils n'étaient pas les seuls.
Alors, qui d'autre alors?
Et les services anglais ne sont pas restés inactifs. Mais nous-mêmes avons joué notre partition.
Attendez, vous voulez dire que les services secrets français ont été impliqués?
Tout à fait. Le plus discrètement du monde, naturellement, car il ne fallait pas nuire aux relations franco-soviétiques. Ça vous étonne?
Un peu, oui, parce que la France, elle n'avait pas de revanche à prendre.
Ah, mais sous Mitterrand, comme sous De Gaulle, elle était quand même franchement située dans le camp occidental. Et puis, il n'est pas exclu que certains de nos agents aient fait un peu de zèle.
C'est-à-dire, sans en référer au pouvoir politique.
Ben, pourquoi pas, ça s'est déjà vu, non? Et puis, vous savez, dans les services, on était rarement pro-communiste.
Oui, ça, je pense. Enfin, ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Hein. Concrètement, qu'avons-nous fait? Enfin, si vous le savez, bien entendu.
Ah ben, je ne sais pas tout, mais enfin, il m'est revenu à l'oreille quelques informations.
Je vous écoute, alors.
Je sais, par exemple, que quelques combattants afghans ont été entraînés par notre service action. D'autre part, des hommes de chez nous, sous couvert d'aide humanitaire, ont pénétré en Afghanistan. Enfin, nous avons encouragé les Moudjahidines à monter des réseaux clandestins dans les républiques soviétiques d'Asie centrale.
Oui, mais quel était l'objectif poursuivi alors?
Accélérer la décomposition de l'Empire soviétique. En outre, ce n'était pas négligeable, les services étaient très intéressés par l'armement soviétique. Or, à partir de 1986, la montée en puissance de la résistance afghane a permis la perte ou la destruction de nombreux matériels militaires soviétiques.
Mais ces matériels alors, méritaient d'exciter la curiosité de nos services secrets?
Bien sûr, je pense surtout aux dispositifs électroniques de transmission ou de brouillage qui se trouvaient à bord des avions soviétiques.
Donc les Français ont été très actifs en Afghanistan.
Oui, mais évidemment, à côté de ce qu'ont fait les Américains, c'était peu de choses.
Alors justement, qu'ont fait exactement les Américains? Vous avez parlé d'aide matérielle et financière et d'entraînement des Moudjahidines.
Globalement, c'est ça. Mais le grand tournant, c'est en 1986. Cette année-là, le patron de la CIA, William Casey, met les bouchées doubles.
Avec l'aval de la Maison-Blanche.
Naturellement. Reagan et Casey étaient très liés. Je vous rappelle que c'est Casey qui avait été l'organisateur de la campagne présidentielle de Reagan en 1981.
Mais les bouchées doubles, qu'est-ce que ça signifie?
Les Américains vont livrer aux Moudjahidines des exemplaires d'un de leurs bijoux technologiques.
Ah oui, je vois, c'est le fameux missile Stinger.
C'est ça, ce missile bourré d'électronique, mais d'un emploi relativement aisé, est un engin portatif qui permet d'atteindre les avions ou les hélicoptères volant à basse ou moyenne altitude. Or, ce sont ces aéronefs, surtout les hélicoptères, qui infligeaient les pertes les plus lourdes aux Moudjahidines.
D'autant que dans ce pays montagneux, l'action des troupes au sol était limitée.
C'est juste, et les Stingers vont changer radicalement la face de cette guerre.
Ils sont immédiatement efficaces.
Oui. Dès 1986, un premier hélicoptère est abattu par l'un de ces missiles. Et il y en aura beaucoup d'autres. La conséquence, c'est que désormais, les aéronefs soviétiques vont devoir voler beaucoup plus haut, ce qui va limiter considérablement leur efficacité.
Les Américains ont donc mis dans les mains des Moudjahidines un engin redoutable.
Très redoutable. Et en 1989, dès que l'armée rouge reflue en URSS, leur premier soin sera d'essayer de récupérer ces précieux Stinger. Car si l'un de ces missiles peut abattre un hélicoptère ou un chasseur soviétique, il peut aussi détruire en vol un Boeing.
Ouais, un Boeing américain, par exemple.
Bien sûr.
Ça veut donc dire que dès cette époque, les Américains se méfient de leurs alliés afghans.
Oui, mais enfin, n'allons pas trop vite.
D'accord, mais vous pouvez quand même me dire si cette opération de récupération des Stinger a été couronnée de succès.
Certains de ces missiles sont effectivement retournés dans les arsenaux américains, en payant le prix fort.
Le prix fort, c'est...
Les Américains ont dû racheter les Stinger aux Moudjahidines, c'est cocasse, non?
Mais alors qu'ils les avaient donnés.
Oui, mais beaucoup d'autres sont restés en Afghanistan. Et certains vont tomber plus tard dans les mains des talibans ou de Ben Laden. Ouais.
Alors la CIA a joué avec le feu, là.
C'est évident, oui. La suite de cette histoire va vous le prouver. Mais je reviens, si vous voulez bien, aux initiatives prises par William Casey. Il n'y a pas que les livraisons de Stinger. La CIA a aussi essayé de susciter la création de guérillas dans les républiques soviétiques musulmanes.
Au fond, comme les services français.
Oui, mais à une toute autre échelle, quand même. Et ils ont joué sur le fait que la région est un véritable puzzle ethnique. En Afghanistan, chez les Moudjahidines, il y avait aussi des islamistes, ouzbeks et tadjiks. Il était donc tentant de se servir d'eux pour semer les troubles en Ouzbékistan et en Tadjikistan.
Des troubles qui continueront, d'ailleurs, bien après l'indépendance de ces républiques.
Et qui dégénéreront en guerre civile dévastatrice. Autre initiative de la CIA, sans doute la plus grave au regard de ce qui s'est passé ensuite, le recrutement de militants islamistes.
Des combattants.
Oui, des hommes dont beaucoup d'Arabes qui sont appelés à se battre en Afghanistan contre les soviétiques. Donc, contre le communisme au nom de l'islam.
Ce qu'on appelle la guerre sainte.
Le djihad. C'est ainsi que William Casey ouvre la boîte de Pandore.
Thank you.
Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
En avril 1989, le journaliste Ahmed Rachid se trouve au Pakistan. Le retrait soviétique venait de se terminer en Afghanistan. Au cours d'un dîner offert par le premier ministre Benazir Bhutto, Rachid questionne le général Gul, chef de l'ISI, les services secrets pakistanais. Il lui demande s'il ne joue pas avec le feu en invitant des militants extrémistes venus d'autres pays musulmans. Réponse du général. Nous sommes engagés dans le djihad et c'est la première brigade islamique internationale de l'époque moderne. Les communistes ont leurs brigades internationales, l'Occident a l'OTAN. Pourquoi les musulmans ne pourraient-ils pas s'unir pour former un front commun? Commentaire du journaliste, c'était la première et la seule justification qu'on m'ait jamais fournie pour l'existence de ceux qu'on appelait déjà les arabo-afghans. Plus loin, dans le livre qu'il vient de publier, L'ombre des talibans, Rachid analyse la décision de William Casey de recruter des musulmans du monde entier pour venir combattre aux côtés des moudjahidines afghans. L'ISI encourageait ce processus depuis 1982. Les autres pays intéressés avaient tous leur raison d'être favorables à cette idée. Le président Zia voulait cimenter l'unité islamique, faire du Pakistan le leader du monde musulman et former une opposition islamique en Asie centrale. Washington voulait prouver que tout le monde musulman luttait contre l'Union soviétique avec les Afghans et leurs bienfaiteurs américains. Et les Saoudiens voyaient là l'occasion de promouvoir le wahhabisme et de se débarrasser des extrémistes frustrés. Personne ne prévoyait que les volontaires auraient leurs propres ambitions qui finiraient par détourner leur haine des soviets pour la diriger vers leur propre régime et vers les Américains. Le livre d'Ahmed Rachid, L'ombre des talibans, a été publié aux éditions Autrement.
Alors, l'ouverture de cette boîte de Pandore,
c'est la réunion de ces dizaines de milliers d'islamistes purs et durs au Pakistan ou en Afghanistan. Une véritable bulle explosive. Certains combattent, apprennent la guerre sur le terrain. Une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. D'autres étudient dans ces écoles islamiques qu'on appelle les madrassas et tous deviendront des fanatiques.
Et d'où viennent-ils? Des pays arabes?
Pas forcément. Le recrutement se fera aussi en Asie ou dans les Balkans. Il faut bien comprendre que pour les islamistes, la cause afghane est pain béni. Voilà l'occasion de ressusciter le djihad et de lui donner un nouveau sens.
Vous semblez insinuer que cette cause, au fond, n'a été qu'un prétexte.
Absolument. La guerre sainte contre les Russes et le communisme devenait une ardente obligation pour tout bon musulman. Et si ces croyants ne combattaient pas eux-mêmes, ils devaient contribuer financièrement à cette cause sacrée. Ça a donc été pour ces islamistes une formidable opération de propagande. Enfin, je vais vite là. Tant que la guerre contre les soviets dure, pas de problème. Mais c'est après que les difficultés vont apparaître.
Un mot avant. Mais qui finance pas seulement les croyants?
Les Américains d'abord. Ils permettront même à des responsables des moudjahidines de venir aux États-Unis faire des tournées de recrutement.
Ouais. J'imagine qu'il y a aussi les Saoudiens.
Oui. L'Arabie Saoudite voit en effet d'un très bon œil la progression de cet islamisme intégriste, un islamiste essentiellement sunnite, donc qui peut faire pièce à l'intégrisme chiite iranien qui inquiète si fort les gardiens des lieux saints de l'islam.
Et les Pakistanais?
Leurs services secrets sont complètement engagés dans cette affaire. Le Pakistan est en effet la base arrière naturelle des moudjahidines. Et c'est aussi au Pakistan que les madrassas sont installées. Elles y sont toujours d'ailleurs.
Venons-en donc maintenant aux difficultés que vous annonciez.
C'était en 1989 que Gorbatchev décide du retrait des troupes soviétiques présentes en Afghanistan. Et le bilan est terrible pour l'URSS. Des milliers de morts et une véritable catastrophe financière.
Tous ces matériels militaires perdus.
Oui, c'est sans compter avec la crise morale que cette guerre lointaine a suscité dans tout le pays. Et bientôt les Russes auront aussi leurs Afghans.
En Tchétchénie?
Où l'on retrouvera parmi les sécessionnistes des soldats qui avaient combattu en Afghanistan contre les moudjahidines. Enfin là, je m'éloigne. Donc, les soviétiques s'en vont. Et toutefois, la lutte des moudjahidines ne s'arrête pas pour autant. Car un régime communiste est toujours en place à Kaboul. Et il faudra attendre 1992 pour que le régime du président Najibullah s'effondre.
Donc, les militants islamistes recrutés dans le monde entier,
continuer à combattre aux côtés des Moudjahidines, c'est ça?
Pas tous, non. Non, parce que le nerf de la guerre manque.
C'est-à-dire l'argent, c'est
oui.
ça, ouais.
Les Américains, mais aussi les Saoudiens, dans une certaine mesure, cessent de financer aussi généreusement les Moudjahidines.
Ouais, et pourquoi?
Bon, c'est très simple. Les Américains ont obtenu ce qu'ils voulaient, la défaite soviétique. Et ils abandonnent froidement leurs anciens alliés.
Mais ils n'ont plus besoin d'eux, c'est ça?
Oui. Et les Moudjahidines et les combattants islamistes, ceux qu'on va maintenant appeler les Afghans, se sentent trahis par les Américains et par la famille royale saoudienne. Et ce ressentiment va avoir de terribles conséquences.
Voilà, la haine des Américains.
Et du régime saoudien. On le verra tout à l'heure quand on parlera d'Oussama Ben Laden. Et cette haine est d'autant plus pernicieuse que ces islamistes font, comment dire, une sorte de complexe de supériorité.
Ah bon, expliquez-moi ça.
Eh bien, ils viennent quand même de mettre à genoux l'une des deux superpuissances du monde.
Ouais, avec l'aide de l'autre superpuissance.
N'empêche, ouais. Sur le terrain, ce sont eux qui ont combattu et qui ont vaincu. Et à travers eux, c'est l'islam qui a gagné. C'est donc le triomphe du djihad, une guerre sainte qui ne peut être que victorieuse dès lors qu'elle est engagée.
Ah ouais, il commence à se dire, si on a réussi contre l'URSS, pourquoi ne pas s'attaquer aux Américains qui nous ont trahis, c'est ça?
Exactement ça, oui. Enfin, j'en viens à la dernière conséquence, celle que les Américains, en véritable apprenti sorcier, n'avaient pas prévue. En revenant dans leur pays, les combattants islamistes, ces Afghans, ne vont avoir de cesse de faire du prosélytisme, de se lancer dans des actions violentes et finalement de mettre en péril le régime de leurs gouvernements respectifs. Des gouvernements qui sont souvent des alliés des États-Unis.
Ouais, la contagion islamiste.
Oui, c'est un vrai poison qui va se répandre. Et on constate bientôt les résultats catastrophiques de cette pandémie. En Algérie en particulier, où ce sont des Afghans qui, en devenant les chefs militaires du GIA, vont multiplier les massacres et faire des milliers de morts.
Mmh. Et vous dites que les Américains n'avaient rien prévu, mais enfin... Quand se rendent-ils compte qu'ils ont contribué à entraîner et à armer des gens dangereux?
Dès 1989, je pense, mais il est déjà trop tard.
À cette date, le désengagement américain est-il total?
Non, la CIA veille.
Quoi? Pour contrôler, surveiller ces islamistes?
C'est pas la priorité. En fait, ce qui intéresse les États-Unis et qui va motiver leur attitude au cours de la décennie 90, c'est la richesse exceptionnelle du sous-sol de la région. Je veux parler de l'Asie centrale.
Le pétrole, quoi.
Le pétrole et le gaz. Mmh. Mais nous y reviendrons. Je voudrais d'abord vous parler de l'irrésistible ascension d'un certain Oussama Ben Laden.
On a dit, pour simplifier, que c'était une créature de la CIA.
Attendez, non, c'est pas si simple. Qu'il ait eu de nombreuses relations avec la centrale américaine, c'est certain. Mais a-t-il pour autant été fabriqué par la CIA? Non. Non, Ben Laden est d'abord un pur produit des Saoudiens et accessoirement des services secrets pakistanais. Vous connaissez son histoire, puisque sa biographie a été étalée dans de nombreux journaux depuis le 11 septembre. Ouais. Sa biographie officielle, en tout cas.
Parce que tout n'est pas clair, là.
Non, non. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque cet homme a cultivé le mystère et vécu très longtemps dans la clandestinité?
Alors, que savez-vous, vous, exactement?
Les grandes lignes, si vous le voulez bien, son père, d'origine yéménite, s'est fixé très tôt en Arabie Saoudite, où il va construire une immense fortune.
Dans les travaux publics.
Oui, essentiellement. Ça. Même si au fil du temps, le groupe va diversifier ses activités. Aujourd'hui, c'est une véritable nébuleuse dirigée par les nombreux héritiers de Mohammed Ben Laden.
Les frères Oussama.
Les demi-frères. Ben Laden, le père, a eu plusieurs épouses et une bonne cinquantaine d'enfants. Et s'il a pu bâtir cette fortune, c'est en raison des liens très étroits qu'il a noués avec la famille royale. C'est grâce à cela qu'il s'est vu confier des travaux comme la construction de mosquées ou la réhabilitation des lieux saints à la Mecque.
Ouais, des travaux qui ne peuvent pas être effectués par n'importe qui.
Bien sûr. Et le jeune Oussama fait ses études en compagnie des princes de la famille royale.
À propos, quel genre d'études?
Technique et commerciale. Oussama, presque naturellement, est destiné à entrer dans le groupe familial.
C'est ce qu'il va faire?
Oui, au milieu des années 70. Ouais.
Mais est-ce que c'est déjà un fondamentaliste?
Vraisemblablement. Mais en Arabie Saoudite, on n'a guère le choix. Pour réussir et être bien vu de la famille royale, il faut épouser la cause wahhabite.
Celle de l'islamisme le plus radical.
Et le plus intolérant. En Arabie Saoudite, la charia est appliquée de façon impitoyable. Mais il semble bien que Oussama Ben Laden n'a pas eu à se forcer. Le jeune homme est très pieux et il a étudié les principaux textes islamiques. Et c'est en 1979 que sa vie va basculer.
En 1979, c'est bien l'année où l'URSS envahit l'Afghanistan.
Oui, oui, et c'est aussi l'année où Ben Laden va être approché par le prince turki Al-Faisal, le tout-puissant chef des services secrets saoudiens. We'll be right back.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
L'Afghanistan, théâtre d'opération idéal pour les islamistes. Dans son livre « Islamisme, une révolution avortée » paru chez Hachette, Antoine Basbous analyse les motivations de ces hommes qui vont aller combattre aux côtés des moudjahidines. L'engagement, le djihad, a représenté pour des milliers de jeunes arabes la possibilité de faire triompher leurs convictions religieuses et de s'émanciper. Souvent réprimés dans leur pays d'origine et peu instruits sur le plan doctrinal, les Afghans arabes se sont lancés dans la promulgation de fatwas alors qu'ils n'avaient pas suffisamment d'autorité ni de culture religieuse pour assumer les décrets condamnant à mort les déviants. Ils ont menacé leurs interlocuteurs et les ont qualifiés de kafirs, ce qui est une accusation passible de la peine capitale selon la charia. Ces jeunes gens, très souvent âgés de 20 ans, avaient une vision manichéenne du monde, leur immaturité politique et sociale les a rapidement conduits à se diviser et s'entre-déchirer.
Ben Laden connaissait déjà ce prince Turki, hein ?
Forcément. Turki est le fils de feu le roi Faisal. Et comme les Ben Laden sont très proches de la famille royale, Oussama l'avait déjà rencontré.
Ouais. D'accord, mais alors, pourquoi Turki s'adresse-t-il à lui ?
Bon, sans doute a-t-il remarqué chez le jeune homme, qui a alors une vingtaine d'années, un véritable sens de l'organisation, à moins qu'il ne l'ait contacté en raison des rapports qu'Oussama entretenait déjà avec la CIA.
Déjà ?
Oui. Ben Laden, mais personnellement je n'en suis pas certain, aurait été approché à Istanbul. Enfin, au fond, peu importe, c'est Turki qui nous importe. Turki qui, lui aussi, travaille en étroite collaboration avec la centrale américaine.
Et Turki, là, que demande-t-il à Oussama Ben Laden ?
De mettre au point le départ des volontaires pour l'Afghanistan et de veiller à leur installation à la frontière pakistanaise.
C'est une mission très importante.
Et qui demande, c'est vrai, oui, un sérieux sens de l'organisation.
Et Ben Laden accepte tout de suite,
oui. Il est enthousiaste, parce que ce qu'on lui demande correspond parfaitement à ce qu'il pense. Parce qu'il a envie, lui aussi, de participer à ce djihad auquel ont appelé les muftis les plus prestigieux. Et enfin, parce qu'en acceptant cette mission, il obéit aux ordres de la famille royale saoudienne.
Aucune restriction, donc.
Hein. Non, non, non. Il faut bien vous rappeler que la cause afghane est alors très populaire. Tout le monde occidental soutient les moudjahidines.
Ouais. Et qu'en pense sa famille ?
Elle est entièrement derrière lui. Elle le restera très longtemps. Même aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle ne l'a pas vraiment lâché. Donc ce jeune homme richissime part pour Peshawar, qui va petit à petit devenir la base arrière des combattants engagés contre l'armée rouge. Mais ce qu'il découvre en arrivant n'est guère brillant.
C'est-à-dire que...
Son jeu de mots, c'est le plus grand bazar, le plus grand amateurisme. Tous ses futurs combattants sont pleins d'enthousiasme, c'est vrai, c'est tout, quoi. L'essentiel reste à faire.
Formation ?
Oui, la formation militaire et idéologique. Alors, fort du soutien financier des Saoudiens, des Américains et des services secrets pakistanais, Ben Laden se met en devoir de construire des camps d'entraînement, des mosquées, des écoles. Et avec les chefs Moudjahidine et la CIA, il organise l'approvisionnement en armes.
Il met lui-même la main à la poche ?
Certainement. Mais Ben Laden est aussi un homme d'affaires avisé. Il ne rate pas une occasion pour arrondir sa pelote. Parce qu'il sait que la cause qu'il défend aura besoin de toujours plus d'argent.
Sur toutes les photos, là, ou les cassettes télé, on le voit... Avec une arme dans les mains, est-ce qu'il a combattu lui-même les soviétiques ?
Il semble qu'il ait effectivement participé lui-même à quelques opérations et qu'il ait pris personnellement des risques. Il y était presque obligé.
Quoi ? Question de prestige ?
Bien entendu, il devait prouver aux Moudjahidines et à tous ses combattants qu'il envoyait de l'autre côté de la frontière affronter les Soviétiques qu'il était lui-même capable de prendre les armes. Mais il l'a fait très épisodiquement. Son vrai travail, c'était l'organisation. Et il rendait compte régulièrement au prince Turki. D'ailleurs, pendant toute cette décennie, il n'a cessé de voyager entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Ouais.
Est-ce qu'au cours de toute cette période-là, il a vraiment pris de l'ascendant sur les Moudjahidines ?
Incontestablement. Cet homme, très jeune, que beaucoup jugeaient d'abord timide et qui parle d'une voix douce, s'impose peu à peu.
Oui, prend l'autorité. Là.
Oui, ces hommes le considèrent comme un héros. Et lorsque son mentor et ami, un Palestinien du nom de Hassan, est assassiné en 1989, c'est lui qui va vraiment devenir le chef des Arabes venus combattre en Afghanistan. Et je vous le rappelle, il y en a des milliers.
Ça, c'est le point de départ de son réseau ?
Al-Qaïda, la base, oui. Al-Qaïda qui s'est installé en Afghanistan avant même la fin de la guerre avec les Russes, allait bien au-delà d'un simple mouvement de combattants. Les familles étaient aussi prises en charge par l'organisation. Et Ben Laden venait en aide aux veuves, par exemple, de la même façon qu'il faisait en sorte de s'occuper de l'éducation des enfants. Une éducation essentiellement religieuse, bien sûr.
Donc si je comprends bien, ces moudjahidines arabes lui étaient donc entièrement dévoués.
Oui, c'était une sorte de fraternité, un clan. Une tribu de plus dans un pays qui était déjà un incroyable puzzle ethnique.
Mm-hmm. Mais d'une façon générale, enfin, comment étaient vus les hommes de Ben Laden ?
Par les Afghans, vous voulez dire ?
Bah oui.
Beaucoup de moudjahidines se méfiaient d'eux. Non seulement parce que c'était des étrangers, mais aussi parce que c'était des fondamentalistes, des wahhabites. Massoud, le célèbre commandant Massoud, ouais, leur était très hostile.
Ouais, peut-être, mais il combattait quand même le même ennemi.
Ça ne suffit pas toujours. Non, Ben Laden était proche d'un autre chef afghan, le redoutable Gulbuddin Hekmatyar, un Pachoun qui dirigeait le parti Hezb-e-Islami, c'est-à-dire le parti islamique. En fait, Hekmatyar était l'homme de l'ISI, les services secrets pakistanais. C'est lui qu'Islamabad voulait voir arriver au pouvoir à Kaboul.
Oui, c'est aussi lui qui s'opposera par la force à Massoud lorsque celui-ci sera maître de Kaboul.
Exact. Oui. Et ces combats interethniques qui vont ruiner la capitale afghane permettront l'émergence des talibans.
Les talibans qu'on accueillera avec d'autant plus de sympathie qu'ils vont établir un semblant d'ordre.
C'est cela, oui. Donc Ben Laden fait ami-ami avec Hekmatyar et naturellement pourvoit au financement de son mouvement et de ses combattants. On retrouvera d'ailleurs certains de ses hommes au Cachemire où ils se battront au nom de l'islam contre les Indiens.
Mmh. Avançons. Et venons-en à la fin de la guerre. Hein. Vous m'avez dit alors que les Américains et les Saoudiens cessent de soutenir financièrement et matériellement les Moudjahidines. Ben Laden doit être le premier à le regretter. Hein.
Bien sûr. Et immédiatement, il repart chez lui en Arabie Saoudite pour plaider la cause des Moudjahidines qui continuent à se battre contre le régime communiste du président Najibullah. Mais il n'est pas entendu. Pourtant, il est accueilli là-bas comme un héros.
Mais comment expliquer alors le refus saoudien ?
Les Américains ont décidé de cesser leur aide. Et les Saoudiens, qui n'ont rien à leur refuser, se sont alignés. C'est aussi simple que ça. Mais Ben Laden, qui a donné 10 ans de sa vie à la cause afghane, est profondément déçu.
Il se sent trahi, quoi.
Oui. Ouais. Et il va de plus en plus ouvertement exprimer son ressentiment vis-à-vis de la famille royale, si évidemment inféodée aux États-Unis. Mais c'est la guerre du Golfe qui précipite les choses.
Oui, à cause de l'arrivée massive de soldats américains sur le sol de l'Arabie.
Bien entendu. Lorsque l'Irak a envahi le Koweït, Ben Laden a proposé au gouvernement saoudien de mettre ses moudjahidines au service du régime pour contrer une éventuelle attaque des troupes de Saddam Hussein. Mais le roi a préféré faire appel aux Américains.
Nouvelle humiliation pour Ben Laden ?
Et ce fondamentaliste n'accepte pas que le sol sacré de l'Arabie soit souillé par les infidèles. Des infidèles qui vont rester après la guerre.
Et à votre avis, c'est donc l'origine de la rupture avec les dirigeants saoudiens ?
Oui, et Ben Laden va être de plus en plus véhément dans ses critiques contre le régime. Et finalement, il devra quitter l'Arabie saoudite.
Alors, il part au Soudan, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, là où il va se mettre au service des militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Des militaires qui veulent, eux aussi, créer un État islamique et appliquer la charia.
Là-bas, il va se sentir comme chez lui. Hein.
Il y investit, il fait des affaires.
Est-ce qu'il a oublié son réseau, là, Al-Qaïda ?
Pas du tout. On va bientôt pouvoir mesurer son pouvoir de nuisance. Mais si vous voulez bien, je voudrais revenir avec cette rupture avec l'Arabie Saoudite. Ouais. Hein, parce que l'affaire ne me semble pas aussi claire qu'il y paraît.
Ah, ce qu'il veut dire, là.
Je suis sûr que cette rupture n'est qu'apparente. En réalité, Ben Laden a gardé des relations avec les Saoudiens et son grand ami, le prince Turki, le chef des services secrets. Et au travers d'une véritable nébuleuse d'organisations charitables islamiques et de banques arabes, Riyad continue à soutenir discrètement Ben Laden et son réseau, qui vont rapidement se lancer dans des opérations terroristes.
Ouais, essentiellement contre les Américains.
Oui. Hein, ouais.
Et alors même que l'Arabie Saoudite est le meilleur allié des États-Unis. Hein,
c'est étrange, n'est-ce pas ? Mais la famille royale saoudienne est loin d'être unie. Et certains princes qui pensent à la succession du roi Fahd ne sont pas mécontents de poser des banderilles à ces Américains qui sont vraiment trop envahissants.
Le double jeu, ça.
Oui, mais ce n'est que le début d'un spectaculaire jeu de dupes. Et vous allez le voir, la suite de cette histoire a de forts relents de pétrole.
La semaine prochaine, je vous propose donc de poursuivre la diffusion de cet entretien. Monsieur X y apporte son lot de révélations. Quel a été réellement l'engagement physique d'Oussama Ben Laden pendant la guerre contre l'armée rouge? Le 7 décembre dernier, le journal Le Monde a publié le témoignage d'un homme qui a combattu à ses côtés le commandant Sayed Zia. J'en extrais ce passage. Nous savions qu'Oussama était très riche, mais lui vivait très modestement parmi nous. Il a été deux fois encerclé par les Russes, une fois au cours d'une bataille qui a duré 24 jours, la plus longue que j'ai vécue de ma vie. Oussama a été encerclé 7 jours avec 100 hommes au sommet d'une colline. Les tirs d'artillerie étaient intenses. Oussama a miné les alentours pour que les Russes ne grimpent pas la colline, puis, au 7e jour, il les a attaqués. Il a vaincu. Oussama et ses Arabes étaient très courageux. Depuis cette époque, je n'ai jamais assisté à d'aussi terribles combats. Ayant peu d'artillerie, nous devions attendre que les Russes approchent de nos tranchées. Quand ils arrivaient à 3 mètres, nous ouvrions le feu. Les Arabes, eux, sautaient des tranchées à la rencontre des Russes. Aucun Afghan ne faisait ça. Eux aimaient le combat au corps à corps. Enfin, je voudrais vous signaler un certain nombre de livres sur Ben Laden et l'Afghanistan, à l'ombre des talibans d'Ahmed Rachid chez Autrement, l'islamisme, révolution avortée d'Antoine Bazbouche chez Hachette, les dollars de la terreur de Richard Labévière chez Grasset, Ben Laden, la vérité interdite de Jean-Charles Brizard et Guillaume Dasquier et Au nom de Ben Laden de Roland Jacquard chez Picolec. À samedi prochain, je vous rappelle le site de France Inter, franceinter.com, un site qui vous permet de réécouter cette émission ou même d'écouter de plus vieilles émissions ou de les télécharger. Alors si vous l'écoutez, c'est 2 euros. Si vous voulez les télécharger, 8 euros, tout ça bien sûr pour les anciennes émissions.